France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité.
Bonjour à tous. Une situation sanitaire qui empire de jour en jour dans les hôpitaux de France. La deuxième vague de Covid-19 frappe l'ensemble du territoire. 523 décès supplémentaires en l'espace de 24 heures. C'est plus du double comparé au bilan d'hier. Et on se rapproche tout doucement des chiffres quotidiens observés lors du pic de la première vague. On compte également plus de 2900 malades du Covid hospitalisés en réanimation. Ça représente plus de la moitié des lits disponibles dans ces services en France. Face à cela, Emmanuel Macron s'adressera ce soir aux Français. Allocution prévue à 20h afin d'annoncer le renforcement des mesures sanitaires. Le détail de ces mesures sera décidé ce matin lors d'un conseil de défense. Le second, après le premier organisé hier matin à l'Elysée, ainsi que les réunions à Matignon toute la journée avec les représentants du Parlement, des principaux partis politiques et des partenaires sociaux. Plusieurs scénarios de durcissement des restrictions sanitaires sont sur la table, dont une mesure à l'échelle nationale, comme le reconfinement. Aux États-Unis, à moins d'une semaine maintenant de la présidentielle, plus de 70 millions d'Américains ont d'ores et déjà voté par correspondance, c'est bien plus qu'en 2016, ce qui laisse entrevoir la possibilité d'une participation plus élevée que d'habitude des Américains à ce scrutin. Devancé dans les sondages, Donald Trump multiplie les meetings face à un Joe Biden volontairement discret pour montrer son respect des mesures sanitaires vis-à-vis de l'épidémie de Covid. Covid, les médias fake news n'ont que ce mot à la bouche, a dénoncé hier le président. Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté hier au Bangladesh contre la France et Emmanuel Macron. C'est la plus grosse mobilisation observée dans le monde depuis les critiques contre les représentations du prophète Mahomet et les appels au boycott des produits français par le président turc Recep Tayyip Erdogan. On note d'autres manifestations beaucoup plus petites en Syrie, dans la bande de Gaza ou en Libye. Et les relations avec la Turquie ne risquent pas de se détendre puisque Charlie Hebdo publie un dessin de Recep Tayyip Erdogan en une de son numéro qui sort aujourd'hui. Il est représenté en t-shirt et sous-vêtements en train de boire une bière et de soulever la jupe d'une femme voilée. Ankara a déjà réagi, accusant le journal de racisme culturel.
Oh, où est passée l'émeraude de la célèbre cantatrice milanaise qui s'est invitée au château? Tintin revient sur France Culture dans les bijoux de la Castafiore. Fausse piste, rebondissement, cacophonie, qui mène le jeu?
N'est-ce pas que tu l'aimes déjà, ce bon capitaine Mast?
Un ballet cocasse truffé de malentendus. Une coproduction France Culture, Hergé Moulinsart et la Comédie Française.
8 milliards de mille sabords.
Les bijoux de la Castafiore. Le feuilleton sur France Culture à 20h30, franceculture.fr et l'appli Radio France.
C'est une histoire qui s'écrit avec des pères pèlerins à bord du Mayflower, avec des pères fondateurs qui rédigent la Constitution.
Sur France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit.
C'est une histoire qui se perd dans la guerre de sécession, mais qui se retrouve dans un horizon lointain, le Far West.
Les mythes fondateurs des États-Unis, le cours de l'histoire, de lundi à jeudi à 9h05 sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Il est 6h03, merci d'écouter France Culture. Tout de suite, le monde vivant avec Bruno David qui s'intéresse ce matin aux rats noirs et aux rats blancs.
En 1284, un joueur de flûte libère la ville d'Amelin, en Basse-Saxe, de tous les rats qui l'infestaient. Vous connaissez l'histoire reprise par les frères Grimm. À cette époque, le mot rat désignait tout un lot de rongeurs, si bien que l'on ne sait pas si le Rattenfänger de Hamelin alla noyer des rats, des souris ou même des campagnols, aujourd'hui classés dans une autre famille de rongeurs. Optons pour le plus vraisemblable, les rats. La Fontaine, dans sa fable, distingue le rat des villes et le rat des champs, qui lui pourrait bien être un campagnol. En ce qui concerne le rat des villes, deux candidats sérieux existent. Tous les deux sont des rats au sens biologique, des muridés, classés dans le genre Rattus. D'un côté, vous avez le rat noir, Rattus rattus, aussi dénommé rat des greniers. De l'autre, le rat brun, Rattus norvegicus, dit aussi surmulot. Le rat noir est un peu plus petit que le rat brun. Sa silhouette est plus élancée, sa queue plus longue, ses oreilles et ses yeux plus grands. Son museau est pointu et non biseauté. Il préfère greniers et combles aux caves, entrepôts ou égouts fréquentés par son cousin. Les deux espèces se rencontrent donc peu. Le premier est présent en Europe depuis le 8e siècle. On lui doit la propagation des pestes médiévales, d'où sa très mauvaise réputation. Il a été supplanté par le second, arrivé 8 siècles plus tard, du sud-est de la Sibérie et de la Chine. Au 18e siècle, le surmulot est partout, en particulier dans nos villes. où il deviendra rat d'égout et où il n'a pas meilleure réputation que son prédécesseur. Depuis que les rats nous fréquentent, ils nous ont accompagnés sur nos routes commerciales. On les trouve actuellement dans le monde entier comme espèces introduites et invasives. Dans les îles, ils ont provoqué des bouleversements écologiques, voire des extinctions, comme en Nouvelle-Zélande ou à Maurice. Omnivores, voraces, prolifiques, s'attaquant aux récoltes et aux réserves, porteurs de maladies, le rat accumule les défauts qui le font détester. En Occident, les rats sont le plus souvent honnis, ce qui n'est pas le cas dans d'autres contrées, notamment en Asie. Dans la langue française, le rat a rapport à la saleté, mais aussi à la richesse. Un logement insalubre sera qualifié de niara ou trouara, et l'avare se fait qualifier de rat, sans doute parce qu'il fait des réserves. L'accablement se poursuit dans la bande dessinée. En Belgique, Machereau crée en 1954 la série Chlorophylle. Il met en scène le malfaisant anthracite, un rat noir aux grandes oreilles, dont l'une présente une encoche reprise avec humour dans le très sérieux ouvrage « Classification phylogénétique du vivant ». Au cinéma, les films de fiction ont souvent associé le rat à l'horreur. Entre 1959 et 2006, on ne compte pas moins de 16 films d'horreur ayant des rats comme protagonistes. Tandis que les rats restent malsains dans le cinéma pour adultes, en revanche, dans les films d'animation, le rat tente à devenir un personnage aimable. Qui ne trouve pas Ratatouille ce rat cuisinier sympathique? Un début de réhabilitation?
Allez, on s'élève, 6h, 7h, les petits matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. Tous les jours de la semaine, très tôt à la radio, ou quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast. On poursuit notre semaine américaine sur France Culture, et depuis lundi, dans le réveil culturel, on se demande ce que sont devenus nos rêves américains. Avec aujourd'hui, au réveil, un hommage au cinéaste John Huston. Un rêve américain à lui tout seul, puisqu'on retrouve dans les films du grand cinéaste toute la littérature américaine qu'on aime, et toutes ces légendes d'Hollywood qui nous ont tant fait rêver le siècle dernier, et même aujourd'hui d'ailleurs. L'actualité nous permet de voir en ce moment au cinéma et en version restaurée deux films de John Huston. D'abord Le Malin, adapté de Flannery O'Connor, réalisé en 1978, et Au-dessous du volcan, adapté de Malcolm Lowry, bien sûr, sorti en 1984. Deux grands films qui n'ont pas pris une ride, de bonnes reprises au cinéma dans quelques salles d'art et d'essai, mais on peut aussi voir ou revoir Le Malin et Au-dessous du volcan en DVD et Blu-ray chez Carlotta. Pour évoquer le cinéma et la bibliothèque idéale de John Huston à travers ses films, l'université Serge Chauvin, critique, historien de cinéma américain. Bonjour Serge Chauvin.
Bonjour, tout fait carrément.
Est-ce que je peux dire aussi Hustonien de longue date?
De longue date, alors j'ai peu travaillé sur lui. En revanche, je m'aperçois qu'au fil des années, son cinéma m'importe de plus en plus.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
William Blackstone, Frontiersman.
Nobody with a good car needs to be justified.
Woke up one morning, she was gone.
And where you are ain't no good unless you can get away from it.
Followed me. Nobody could follow you.
I stop drinking, I do anything.
Pascal,
my friend on time. Sure, sure.
I'm back.
C'est la bonne nouvelle de ce mercredi, on peut revoir au cinéma ou en DVD, en Blu-ray, mais surtout en version restaurée, Le Malin et Au-dessous du volcan, réalisé par John Huston. John Huston, né en 1906, mort en 1987, et qui a pu raconter à travers ses films le 20e siècle américain, en passant souvent d'ailleurs par la littérature de son temps. On va en parler bien sûr, mais pour commencer, Serge Chauvin, comment définiriez-vous le cinéma de John Huston? Est-ce qu'il incarne le rêve américain? américain, son envers.
Plutôt son envers ou son dehors. Le paradoxe de Houston, c'est d'abord c'est un américain cosmopolite. Bon, il est fils d'un acteur et d'une journaliste, élevé en partie hors des États-Unis, au Canada, en Grande-Bretagne, qui plus tard a élu domicile soit en Irlande, soit surtout au Mexique, et qui est très atypique en un sens, souvent expatrié, dont la majorité des films, même s'ils mettent en scène des personnages américains, se déroulent hors du territoire américain et qui a une grande défiance vis-à-vis des... Sinon des idéaux supposés du pays, parce qu'il a quand même fait un court-métrage pour le bicentenaire de l'indépendance, mais plutôt de ce qu'ils étaient devenus. Et en règle générale, ces films qui se déroulent aux États-Unis sont soit dans la première période des films noirs, qu'il a réalisé ou qu'il a co-écrit comme les tueurs de Robert Siodmak, soit dans la dernière partie de sa carrière, des films extrêmement désenchantés comme Les Misfits, Les Désaxés, ou encore plus tard, des visions très 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 sombres comme celle du Malin ou déjà de Fat City, qui montre une Amérique profonde, filmé de manière très prosaïque, presque comme un champ d'épandage, ou avec des personnages soit à la dérive, soit perdus dans leurs obsessions destructrices et autodestructrices.
Grand témoin du XXe siècle américain, donc de ce siècle qui a donné naissance, au moins chez nous en Europe, de la notion du rêve américain.
Oui, mais ce rêve américain, il existe souvent à l'état de vestige, on va dire. Je pense notamment aux Misfits où on ne capture même plus les chevaux, on les abat. Enfin, donc il y a une sorte. D'ailleurs, Houston a très peu pratiqué le western et il a offert un western là encore très démythifié dans Jugé hors la loi, par exemple. Et même s'il a des héros privilégiés qui semblent incarner, surtout via les stars qui les personnifient, comme Humphrey Bogart, un certain idéal, un certain ethos américain, il y a quand même un décalage, justement grâce à son côté cosmopolite, et des idéaux qu'il faut peut-être trouver ailleurs, en fait. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose que finalement on mésestime, c'est que si Houston peut représenter l'Amérique qu'on aime vue d'ici, c'est non seulement par la beauté de son œuvre et par le fait que malgré tout ces films ont aussi incarné un certain idéal hollywoodien, on va dire, justement par l'éclat des stars, ce dont vous parliez dans votre introduction, mais aussi un idéal progressiste. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, parce que les films de Houston paraissent souvent assez peu politiques, on va dire, mais justement ils le sont peut-être en creux. Mais il y a un hiatus pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il arrête de travailler à Hollywood et où il s'engage pratiquement, mais
avec John Ford, avec George Stevens. C'est très bien de rappeler ça, Serge Chauvin, parce qu'on peut voir les films qu'il a fait sur Netflix en ce moment.
Oui, ou dans un coffret qui s'appelle L'Amérique en guerre, où il y a aussi toute la série Pourquoi nous combattons de Frank Capra. Mais effectivement, Houston, comme les cinéastes que vous citiez, ou William Wyler, est allé sur le théâtre des opérations, donc filmer des images documentaires, alors commanditées par les autorités militaires américaines, donc a priori des films de propagande.
Sauf que ça ne sera pas des films de propagande.
Exactement.
Ni pour lui, ni pour Ford, d'ailleurs.
Exactement, qui ont été très mal reçus par l'armée, parce que, par exemple, dans la bataille de San Pietro, qui est une bataille extrêmement sanglante et une victoire à la Pyrrhus, on va dire, des troupes américaines pendant la campagne d'Italie en 1943. Ils filment les soldats qui meurent, ils filment les morts, ils filment les funérailles, ils filment les civils sans abri, etc.
Et ils filment ensuite, et dans un très très beau film toujours disponible sur Netflix, ceux qui reviennent du front complètement traumatisés, cassés, malades.
Absolument.
Et d'ailleurs, c'est un très beau film, c'est-à-dire même techniquement parlant, esthétiquement parlant, c'est un très très beau film, et pourtant, c'est une charge contre la guerre. D'ailleurs, ce film, comme la plupart de ces films réalisés par des grands cinéastes en pleine guerre, vont être interdits.
Oui, alors que effectivement, le film auquel vous faites allusion, donc justement sur le traitement psychiatrique des soldats traumatisés, qui s'appelait Que la lumière soit, est resté inédit jusqu'en 1980. Les autorités militaires ne voulaient pas qu'il soit vu. Et au retour, en fait, Houston a été aussi l'un des plus l'un des grands opposants à au début de la chasse aux sorcières, au début des listes noires, etc. Ce qu'il est le macartisme, donc parmi les hollywoodiens. Quand il fait Kill Argo en 1948, bon, il y a l'idée du gangster qui revient, mais à travers ça, c'est l'idée, est-ce que le vétéran s'est battu pour rien? Est-ce que l'Amérique va être aussi corrompue qu'avant? Et ensuite, il fait un film, alors malheureusement très difficile à voir, qui s'appelle Les Insurgés en 1949, qui est où des Américains rejoignent les rangs de révolutionnaires cubains qui s'opposent à une dictature. Bon, ce qui est aussi une métaphore sur la guerre d'Espagne, mais c'est quand même assez là aussi assez révélateur d'une prise de position.
Rebelle, John Huston.
Oui.
Alors, il était tout à la fois rebelle, aventurier, marin, voyageur. Il a beaucoup voyagé. Vous venez de préciser, Serge Chauvin, un noceur, on peut dire.
Oui.
Sportif en tant que boxeur, militaire, on l'a dit, joueur, peintre, collectionneur d'art. Il était aussi écrivain, puisqu'il a écrit des scénarios. Il est arrivé au cinéma, d'ailleurs, par le scénario. Absolument. Un acteur qu'on a pu voir dans de très, très bons films, dont le dernier, l'inachevé film d'Orson Welles, où il joue presque son rôle, un éternel voyageur, avant d'être un cinéaste. Mais s'il fallait résumer la filmographie de John Huston à travers ses adaptations, parce que dès le début, hein, dès 1941, dès son premier film, Le Faucon Maltais, il adapte Dashiell Hammett, et ça va être comme ça jusqu'à la fin de sa carrière, puisque Les Gens de Dublin, sorti en 1986, c'est une adaptation de James Joyce. Donc, qu'est-ce qu'il a fait pour le cinéma? Il a adapté Kipling, L'homme qui voulut être roi, Tennessee Williams, La nuit de l'iguane, Carson McCullers, Reflet dans un œil d'or, Moby Dick de Melville, La Bible. Il a collaboré avec Truman Capote, oui. Il a travaillé avec Arthur Miller pour Les Désaxés, bien sûr, et il a même demandé un scénario à Jean-Paul Sartre, oui. pour Freud, Passion secrète. Et puis, bien sûr, nous, on va beaucoup plus parler de ces deux films qui ressortent en version restaurée, Le Malin d'après Flannery O'Connor et bien sûr Au-dessous du volcan d'après Malcolm Lowry. Est-ce que c'est le plus littéraire des cinéastes américains ?
Peut-être, effectivement, quand on considère sa filmographie. Et par ailleurs, effectivement, il a longtemps hésité entre plusieurs carrières, entre une carrière de peintre, entre une carrière et il a fait un biopic de Toulouse-Lautrec qui s'appelle Moulin Rouge. Et il y a un travail sur l'image dans d'autres films, sur la couleur en particulier. Il a écrit et publié des nouvelles. Il a écrit des pièces de théâtre. Et d'ailleurs, à propos de Sartre, qui n'était peut-être pas le meilleur choix pour un scénario sur Freud, au demeurant, mais c'est Huston qui a créé Huis Clos en 1946 à New York. C'est ouais. lui qui l'a mis en scène au théâtre pour la première fois aux États-Unis.
Que disent ces livres adaptés au cinéma de John Huston? Est-ce que c'est sa bibliothèque idéale déballée
pour... Oui. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. Et effectivement, avec des livres de chevet comme L'homme qui voulut être roi de Kipling, avec des classiques américains, alors et notamment la conquête du courage de Stephen Crane, dont le film s'appelle en français La charge victorieuse, qui est un film sur la guerre de sécession et qui est dénaturé par les producteurs, mais qui est aussi une charge contre la guerre, justement. Bien sûr, le roman noir avec Hammett et Burnett. Et puis, mais effectivement, et notamment les écrivains sudistes. Donc, on va revenir sur Flannery O'Connor. Et ce qui est frappant aussi, c'est donc dans ce rapport, d'une certaine manière, presque de dilettante par rapport au cinéma, mais avec une vraie, une sorte de déférence envers la littérature, un goût des écrivains, et on pourrait ajouter aux écrivains avec lesquels il a collaboré, Romain Gary pour l'adaptation de son roman Les Racines du Ciel.
Bien sûr, bien sûr.
Et donc un goût pour la compagnie des écrivains, et sa fille Angelica racontait que voilà, il fallait absolument lire à la maison, enfin que c'était presque une obligation pour les enfants de Huston. Et par ailleurs, en même temps, une déférence et une certaine absence de complexe, puisque il s'est affronté à des œuvres réputées inadaptables. Donc Moby Dick,
la Bible,
effectivement, bon, qui était une commande, mais effectivement, ouais. La barre était peut-être mise trop haut en l'occurrence, mais au-dessous du volcan, bien sûr, sur lequel d'autres cinéastes s'étaient cassés les dents, ou Joyce, alors certes Jean de Dublin, mais avec et pour lui Ulysse avait été une révélation, il l'avait lu dès les années 20. Il y a effectivement une volonté de se colter avec les grandes œuvres, et puis une grande liberté, une grande absence de complexe, c'est-à-dire en décidant d'en garder ce qui l'intéresse. Et finalement, de façon, on a dit beaucoup de mal de Moby Dick, de son film, et à tort, me semble-t-il, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'essaye pas de restituer ce qui est irrestituable de l'écriture elle-même ou des développements théoriques, abstraits, métaphoriques, etc. Pas plus qu'il ne prétend rendre, et d'ailleurs il refuse même rendre le côté hallucinatoire, mythologique, cosmogonique, etc. d'au-dessous du volcan, mais plutôt d'en garder ce qui l'intéresse, c'est-à-dire notamment des récits d'obsession, et de révolte, d'ailleurs parfois métaphysique, en les ancrant dans des milieux en plus ou des pays comme le Mexique qu'il connaît intimement.
Norman Mailer affirmait que John Huston était le seul cinéaste et artiste capable d'être comparé à Hemingway, mais c'est votre collègue Serge Chauvin, votre collègue Andrew Saris, qui trouve une bonne définition, puisqu'il décrivait John Huston comme un personnage d'Hemingway perdu dans un roman de Dostoïevski.
Jolie formule, surtout de la part de Saris, qui, comme un peu sous l'influence des cahiers du cinéma, n'était pas forcément très 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 admiratif de Huston en tant que tel, de son approche de la littérature, des aventures de certains de ses films, ou de l'absence de style reconnaissable, parce qu'il y a une dimension très très empirique, très pragmatique chez Huston, c'est-à-dire que chaque film, chaque projet pose des enjeux formels différents qu'il résout de manière empirique, mais il y a quelque chose de très juste en même temps, c'est-à-dire que la dimension évidente de cette parenté hemingwayenne, voilà, un certain machisme, l'aventurier, le boxeur, le torero amateur, le bourlingueur, etc., et le buveur aussi. Et en même temps, il me semble que
personnages sont des anti-héros, donc il y a le côté aussi tragique.
Absolument, mais il y a une dimension mais tragique différente, c'est-à-dire qu'en fait, bon, c'est ce qui me gêne parfois chez Hemingway, c'est un côté un peu donneur de leçons, et le fait que malgré tout les personnages doivent toujours savoir quoi faire. Enfin, il y a une sorte d'éthique du comportement, etc. Alors que les personnages de Huston vont au bout d'eux-mêmes, mais parfois de façon effectivement totalement anti-héroïque.
Avec leurs doutes, leur humanisme,
avec leurs limites, avec quand Huston présentait Quand la ville dort, donc son grand film noir de 1950, il disait qu'en gros chaque personnage est défait parce qu'il appelle son vice, mais d'une certaine manière son vice c'est sa pulsion, c'est ce qui le définit le plus justement. Et donc c'est ce que je trouve aussi très beau chez Huston, c'est que même si parfois il y a une sorte de surplomb dans certains films un peu axé sur la dérision par rapport à ses personnages, presque toujours dans ses meilleurs films, il ne porte aucun jugement, y compris sur les comportements les plus aberrants ou sur les défauts les plus impardonnables de ces personnages, quoi. C'est
avec vous, Serge Chauvin, on essaye d'imaginer la bibliothèque idéale de John Huston à partir des films, parce qu'il a adapté des écrivains et qu'il aimait bien, mais il perdait jamais une occasion pour parler des livres. C'est ainsi que j'ai retrouvé une archive très étonnante de John Huston. Il est en France, c'est en 1982, et on lui pose la question de son rapport aux comédiens. Comment il dirige ses comédiens? Et ben là aussi, il va trouver une référence littéraire, et je suis sûr que cela va vous étonner. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup étonné.
I don't go on to a set and impose an idea.
Sur le plateau, je n'impose pas une idée. Parfois, j'en ai une en tête, mais j'espère que l'acteur la trouvera en premier. S'il ne la trouve pas, je suggère ce qui peut l'amener à le faire. J'essaye d'être le prolongement de tout, de la pensée de l'acteur, du personnage. Et au lieu d'imposer en dictateur ce que l'acteur doit faire ou ce que nous devons tous faire, je me glisse parmi eux. Alors Maigret, il avait lu même les aventures de Maigret. Simenon, j'arrive pas à imaginer Simenon dans la bibliothèque de John Huston, Serge Chauvin.
Alors j'ignorais, je connaissais pas cette citation, mais en même temps, voilà, il a aimé Hamet, il a aimé Burnett, donc pourquoi pas, effectivement. Enfin, il n'y a pas effectivement de hiérarchisation, si vous voulez, par rapport au roman policier. Et après tout, voilà, Gide admirait Simenon aussi, mais c'est effectivement très 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 étonnant. En plus, surtout quand il applique ça à la maïotique de sa direction d'acteur, effectivement, c'est très savoureux, en effet.
Pour terminer, puisqu'ils ressortent en version restaurée, Le Malin au-dessous du volcan. Quand je découvre Le Malin, je me dis c'est incroyable, c'est encore d'actualité, puisque c'est quand même l'histoire d'un jeune homme qui rentre en rébellion contre la religion, contre Jésus, contre l'Église de Jésus, contre la bigoterie des Américains. Là, on est quand même dans l'Amérique qui continue à être cette Amérique bigote.
Ah, mais ça, c'est un film absolument extraordinaire, peut-être le plus étonnant de sa dernière période. Et d'ailleurs, Huston est l'un des rares cinéastes de sa génération à avoir complètement réussi le virage du nouvel Hollywood et avoir réalisé de très grands films dans les années 70 et 80. Et c'est un film d'une radicalité rare, effectivement. Et il tourne en Géorgie. Géorgie contemporaine, mais qui n'a pas l'air d'avoir changé, ni dans son, sinon s'être dégradé, et dans son paysage et dans son racisme. Le racisme est absolument constant dans le dialogue des personnages, et effectivement le fanatisme religieux, avec le paradoxe d'un personnage jusqu'au boutiste, petit-fils de prédicateur joué par Huston lui-même, qui veut créer l'Église de la vérité sans Christ, enfin qui développe une théologie hérétique qui peut sembler athée, et Huston lui-même était agnostique, et qui en même temps est une sorte de puritanisme poussé encore un degré plus loin, quoi. Et ça correspond beaucoup à l'ironie d'ailleurs du roman de Flannery O'Connor. Et effectivement, on a une vision d'une noirceur, d'une ironie grotesque en même temps, qui est extrêmement impressionnante et qui nous aide effectivement à comprendre justement notamment le phénomène évangélique ou le fondamentalisme si présent encore dans l'Amérique de Trump.
Malcolm Lowry, adapté par John Huston, ça donne quoi? Parce que c'est l'autre film qui sort en version restaurée, grand film, au-dessous du volcan.
Alors là, c'est une veine d'ailleurs, disons, on va dire, d'un classicisme souverain qui est celle aussi de son ultime film, Jean de Dublin. Et donc, il a recentré donc le roman foisonnant, proliférant de Lowry sur son argument narratif en le prenant au sérieux, avec une admirable incarnation du personnage du consul par Albert Finney. Et avec aussi un sous-texte politique beaucoup plus présent que dans le roman, la guerre d'Espagne, la montée du fascisme au Mexique, etc., parce qu'on est en 1938, et surtout avec une connaissance intime du Mexique, une vision qui n'a rien de folklorique, que aussi bien la fête des morts que les bordels, etc. Et il y a une dimension entre Au-dessous du volcan et Le Malin, il y a une dimension presque bunuelienne de l'œuvre de Huston qu'il faut aussi saluer et souligner.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
On le sait, c'est toujours mieux de voir les films au cinéma, mais par les temps qui courent, on est bien content de savoir qu'on peut voir Le Malin et Au-dessus du volcan en DVD également, et avec des bonus. Et parmi ces bonus, un éclairage, une analyse de mon invité ce matin, Serge Chauvin. Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Notre semaine américaine continue, puisque demain, on va parler de la France et comment la France a pu être une terre d'exil pour les Noirs américains. Est-ce que le French Dream existe à travers un exemple concret, celui des musiciens, et plus particulièrement, puisqu'on en parlera demain, de Quincy Jones. Passez une bonne journée sur France Culture.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Semaine spéciale, élection américaine sur France Culture, Adèle Vendrette.
Donald Trump dans l'œil des philosophes à travers 4 émissions. Les droits de l'homme à l'épreuve de la démocratie? Les mots qui fâchent sont-ils les mots du fascisme? Le menteur a-t-il quelque chose à nous apprendre? Et enfin, la révolution peut-elle être menée par l'élite?
Les chemins de la philosophie, le matin à 10h sur France Culture jusqu'à vendredi et sur l'appli Radio France.
Tu me fais le speech?
Le pitch.
France Culture présente Garçon chiffon, un film de Nicolas Maury. Jérémy, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et de se rendre sur sa terre d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère. Garçon chiffon, aujourd'hui au cinéma avec Nicolas Maury et Nathalie Baye. Un film France Culture.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Adrien Toffolet. Bonjour.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron donne rendez-vous à 20h aux Français. Le président de la République va dévoiler le résultat de 2 jours de consultation des experts sanitaires, du gouvernement, des représentants politiques et des syndicats pour lutter contre la deuxième vague de Covid qui touche la France. Ce qui est certain, c'est qu'il faut s'attendre à des mesures radicales, précision de Stéphane Robert. En Italie, le gouvernement lui aussi a pris des mesures le week-end dernier pour freiner la propagation du virus, mais les Italiens les ont accueillis avec colère en manifestant lundi, parfois avec violence. Le Premier ministre italien annonce donc de nouvelles mesures d'aide pour soutenir l'économie, éclairage d'Olivier Tosseri. Et puis plus qu'ailleurs en Europe, les Français sont nombreux à ne pas vouloir payer pour de l'information de qualité, et encore plus pour des sites d'information en ligne, analyse de Benoît Grossin. Il n'y a plus le temps d'attendre les résultats du couvre-feu. C'est le constat posé par le gouvernement alors que la deuxième vague de l'épidémie de Covid en France s'aggrave à nouveau. 523 morts ont été comptabilisés ces dernières 24 heures par Santé publique France, 2900 malades en réanimation. La moitié des lits dans ces services sont remplis dans tout le pays. Oui, on est encore loin du pic. Les 15 jours à venir verront une progression exponentielle de l'épidémie selon les autorités sanitaires. Il en a été question hier lors du Conseil de défense à l'Élysée afin de déterminer la réponse de l'État contre la propagation de l'épidémie, mais aussi à Matignon, lors des réunions entre le Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et les responsables des différentes forces politiques du pays, Stéphane Robert.
La réunion avec les représentants des forces politiques hier soir a offert l'occasion au Premier ministre et au ministre de la Santé de dresser un état des lieux de la situation sanitaire, et elle est très inquiétante selon le secrétaire national du Parti communiste, Fabien Roussel.
Il y a une réalité qui a été énoncée par le ministre de la Santé, c'est que d'ici le 11 novembre, nos hôpitaux seront saturés. Donc la situation est particulièrement grave, nos hôpitaux seront plus en capacité de soigner. La réalité, elle est celle-là.
Plus concrètement, l'exécutif a évalué les besoins en lits de réanimation à 10 000 d'ici le 11 novembre, alors qu'on dispose actuellement d'un peu moins de 7 000 places. Pour le reste, aucune piste n'a été évoquée, aucun scénario pour faire face à la situation. Il faudra attendre ce soir, a expliqué le président de l'Association des maires de France, François Baroin, pour en savoir plus sur ce que va décider le chef de l'État.
Le sentiment qu'on a, c'est qu'on va plutôt vers un confinement, que ça va durer quelques semaines et que le gouvernement essaye de trouver les moyens de préserver peut-être les écoles, les services publics et de maintenir un semblant de vie économique pour éviter une casse trop dure.
Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, estime quant à lui que si on en est arrivé à cette situation, c'est par un manque de prévoyance.
Clairement, on sent que le confinement généralisé au niveau national est sur la table. C'est rendu nécessaire, je crois, par le défaut d'anticipation cet été et par le fait que finalement il y a eu une sorte de triomphalisme à la sortie du premier confinement et un retard à l'allumage sur la généralisation du télétravail en particulier.
Emmanuel Macron va encore une fois examiner les différentes hypothèses en Conseil de défense ce matin et il annoncera sa décision dans la soirée. Tout semble cependant indiquer que le couvre-feu étendu à 54 départements il y a quelques jours ne suffit pas et qu'il faudra vraisemblablement se résoudre au reconfinement.
Stéphane Robert, on l'a vu, la tension augmente ces derniers jours dans les hôpitaux avec l'afflux de malades. De plus en plus de Français se font tester également. Dans très peu de temps d'ailleurs, les médecins généralistes vont pouvoir pratiquer des tests antigéniques chez leurs patients, mais rien ne les oblige à le faire. Et il faut bien constater que les généralistes ont jusque-là boudé déjà la réalisation des tests PCR dans leur cabinet, à de très rares exceptions près, Tarach Legel.
Les généralistes sont les premiers à recevoir les malades et ils auraient pu réaliser facilement des prélèvements nécessaires aux tests PCR. Le docteur Bertrand Legrand en est persuadé. Il exerce à Tourcoing et lui s'est procuré des écouvillons dès le mois d'avril.
On gagne 24 heures sur l'épidémie puisqu'il faudra 24 heures pour que la personne soit testée. Ces 24 heures sont essentielles pour maîtriser une épidémie où les 7 premiers jours comptent double pour des contagions.
Il aurait donc été utile que ce geste soit généralisé. Mais la sécurité sociale n'a toujours pas accepté de côté cet acte, précise le docteur Legrand, qui est aussi secrétaire général pour son département de la CSMF, la Confédération des syndicats médicaux français.
L'État n'a toujours pas compris qu'on ne peut pas, avec un tarif bloqué, demander à quelqu'un de baisser son salaire, ça ne marche pas. Je vous rappelle que seul le médecin généraliste n'est pas payé pour réaliser un PCR, alors que l'infirmier, le pharmacien ou le biologiste reçoit une rémunération pour faire le prélèvement.
Depuis septembre, d'autres syndicats font aussi cette proposition à la CPAM. Jacques Battistoni de MG France rappelle que la cotation 5K existe déjà, que l'acte serait rémunéré 9 euros par patient pour le médecin. Il suffirait d'une simple lettre réseau envoyée par la CPAM, mais il ajoute aussi que réaliser un prélèvement, selon lui, n'est pas le travail principal d'un médecin et que les tests antigéniques qui arrivent seront plus simples. Leur cotation entre dans la consultation Covid et on aura le résultat en 20 minutes. Le docteur Legrand, lui, n'en démord pas.
Très clairement, le test PCR n'est pas réalisé aujourd'hui dans les cabinets de médecine générale, ce qui est une erreur fondamentale qu'on pourrait corriger quasiment du jour au lendemain si l'État avait le vrai souci de maîtriser l'épidémie.
Conviction d'un médecin qui exerce dans une ville meurtrie par l'épidémie.
Tara Schlegel, il n'y a pas qu'en France que la situation empire. En Italie, le Covid circule extrêmement rapidement. Il n'est pas encore question de reconfinement total, bien qu'une batterie de restrictions ait été adoptée le week-end dernier. Des mesures accueillies avec colère par une partie des Italiens. Des manifestations de milliers de personnes ont eu lieu lundi à travers tout le pays, émaillées parfois d'incidents violents. Le gouvernement italien hier a donc débloqué un nouveau dispositif d'aide pour soutenir les secteurs d'activité les plus en difficulté. À Rome, les précisions d'Olivier Tosseri.
Giuseppe Conte promet de préserver à la fois la santé des Italiens et l'économie du pays. Le demi-confinement imposé pour endiguer la deuxième vague de coronavirus a surtout provoqué une vague de colère à travers tout le pays. Pour calmer l'exaspération des professions les plus durement frappées par la crise, Giuseppe Conte a présenté un décret qui bénéficiera en premier lieu au secteur de la restauration, de la culture et du tourisme.
C'est un décret qui représente dans son ensemble plus de 5 milliards d'euros. Les indemnités versées à fonds perdus arriveront directement sur le compte en banque des principaux intéressés via un virement effectué par l'administration fiscale. J'ai déjà répété que nous n'avons pas effectué de choix arbitraire pour imposer les fermetures des activités concernées.
Outre toute une série d'indemnités, les bénéficiaires du décret seront exonérés du paiement de la taxe foncière pour leur activité. Pour les salariés, les dispositifs de chômage partiel seront confirmés et l'interdiction de licenciement est prolongée jusqu'au 31 janvier 2021. Giuseppe Conte a tenu également à rappeler l'importance du respect du demi-confinement.
Nous ne pouvons en effet pas nous illusionner qu'avec une courbe épidémiologique qui monte de manière constante, les personnes puissent se promener tranquillement. Si en revanche nous respectons ces mesures restrictives, nous avons de bonnes chances d'affronter le mois de décembre avec une certaine sérénité. Si ce n'est pas le cas, nous nous retrouverons dans quelques temps face à l'éventualité de procéder à un confinement généralisé.
Un lockdown généralisé.
Pour affronter la crise sanitaire et économique, Giuseppe Conte demande aux Italiens de la patience. Ils commencent à en manquer.
Olivier Tosseri. De l'autre côté du globe, en revanche, une bonne nouvelle. Melbourne, la deuxième ville d'Australie, est sortie cette nuit d'un confinement de 3 mois. Restaurants et cafés ont rouvert normalement. Un nouvel épisode tendu dans les relations avec la Turquie. Ankara accuse ce matin Charlie Hebdo de propager son racisme culturel et sa haine suite à la publication aujourd'hui d'un dessin de Recep Tayyip Erdogan en une de son nouveau numéro. Le président turc est représenté en t-shirt et sous-vêtements en train de boire une bière et de soulever la jupe d'une femme voilée sans culotte. Il s'agit selon la Turquie du résultat du supposé programme anti-musulman d'Emmanuel Macron. Une critique déjà formulée ces derniers derniers jours au milieu d'insultes et d'appels au boycott des produits français. On reste dans la presse. Seuls 15% des Français se disent prêts à payer pour une information fiable ou de qualité, selon une étude Ipsos menée dans 29 pays et qui vient d'être publiée, alors qu'ils sont 27% en moyenne au niveau mondial à vouloir le faire. D'après les résultats, on voit en particulier que les Français rechignent encore à rémunérer les contenus en ligne, Benoît Grossin.
Ce qui est en ligne doit être en accès gratuit pour les Français. Ce sentiment général perdure, selon Yves Bardon, spécialiste des analyses des consommateurs et des citoyens chez Ipsos. Les Français, connus pour être des champions du piratage, sont majoritairement à 57%, opposés même à payer. 57% parmi les taux les plus importants dans le monde, proche de celui des Russes qui avoisinent les 60%. Et cette résistance vaut autant pour l'information que pour du divertissement. Alors qu'ils sont plus nombreux, près de 50% désormais chaque jour à consulter les réseaux sociaux pour s'informer, les Français se distinguent en Europe. Les Polonais, les Néerlandais, les Suédois sont eux respectivement à 29, 32 et 34% prêts à mettre la main à la poche pour obtenir des informations fiables. Il faut dire que moins de la moitié des personnes interrogées en France, 40%, cherchent à s'assurer que les informations proviennent de sources dignes de confiance et qu'un peu plus d'une personne sur deux seulement s'estime capable de déceler les fake news. Et selon l'étude Ipsos, qui croise aussi des données d'opinion et des habitudes de consommation, les populations qui risquent d'être particulièrement exposées aux fake news, celles qui s'abreuvent le plus d'informations gratuites, sont les populations les plus sensibles aux thèses populistes.
La météo du jour, le Pas-de-Calais est placé en vigilance orange, pluie, inondation par Météo France. Aujourd'hui, à partir de 10h et jusqu'à 21h, le ciel ailleurs sera nuageux. Même en Méditerranée, le soleil sera souvent voilé. Les températures sont proches des normales de saison, de 7 à 13 degrés ce matin, de 12 à 22 degrés cet après-midi. 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du journal des idées. Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Adrien Toffolet.
Ce que nous cherchons à combattre, c'est une idéologie, pas une religion, a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin au journal Libération. C'est la progression de l'islamisme dans notre société qui est visée.
Oui Adrien, le ministre souligne que les musulmans de France, dans leur grande majorité, sont les premiers concernés par la dérive idéologique de l'islam radical, qui les cible au premier chef. L'hebdomadaire Le 1 est consacré à cette question. Olivier Roy insiste sur le fait qu'il n'y a pas de lien automatique entre l'augmentation du fondamentalisme religieux et la violence terroriste. Il estime que plus une société se sécularise, plus les religions sont fondamentalistes, puisque le citoyen moyen cesse d'être croyant et qu'il ne comprend même plus la culture religieuse. Ceux qui veulent du religieux vont du coup vers le plus radical. Mais on peut aussi considérer que ceux qui font monter les enchères de la part bénite exercent sur la majorité de musulmans qui vivent leur foi en paix une forte pression. Et aujourd'hui, ce sont aussi les signaux faibles de cette progression hégémonique de l'islamisme qui nous sont devenus intolérables du fait de la violence qu'ils peuvent déchaîner à l'école, à l'hôpital, aussi bien chez certains soignants que certains patients qui refusent de soigner ou être soignés par des personnes de l'autre sexe, et même dans le monde du sport. Ces signaux nous apparaissent désormais comme des sémaphores. Nicolas Ksismartov, journaliste au magazine SoFoot, en témoigne. Il évoque un rapport du Service central du renseignement territorial en 2015 qui pointait un péril dans les clubs de foot amateurs, listant pêle-mêle une équipe de Perpignan qui prit sur la pelouse devant des arbitres médusés, des éducateurs fichés S faisant du prosélytisme dans des clubs où l'on ne parle plus qu'arabe, ceux où l'on refuse la mixité. À cet égard, Patrick Karam, inspecteur jeunesse et sport qui a récemment publié le livre noir du sport, estime que tout comme il existe une interdiction pour les délinquants sexuels d'exercer certaines fonctions dans un club pour protéger les mineurs, il est impératif que soit mise en place par la loi une interdiction similaire pour les radicalisés islamistes. Cela dit, ajoute Nicolas Ksismartov, au vu de la force de son implantation dans les milieux populaires et dans des quartiers souvent abandonnés, abandonnés. Ces clubs représentent des lieux d'intégration quand la plupart des services publics, éducation, nationale, police, sont souvent rejetés et le nombre de ces dérives reste faible au regard des millions de licenciés concernés. Le président de l'ES Vitry, grand club omnisport de cette cité emblématique de la banlieue ouvrière, décrivait ainsi la situation en voyant les barbes pousser. Au club, on a affaire à des musulmans pratiquants, pas à des gens radicaux. Et Pierre Ferracci, président du Paris Football Club, souligne que nos clubs restent des lieux uniques de rassemblement sur des valeurs communes. Dans le monde, trois intellectuels démocrates et laïcs, syriens et libanais, Yassine Al-Hadj Saleh, Ziad Majed et Farouk Mardambeh, signent une tribune sur la crise de l'islam. Le nihilisme djihadiste, je cite, prospère quand se ferment les systèmes politiques dans les pays à majorité musulmane, quand leur destin leur échappe. Si la religion, selon le jeune Marx, est l'âme d'un monde sans âme, elle est en terre d'islam, la politique d'un monde sans politique. Les auteurs rappellent le rôle des démocraties occidentales depuis l'invasion américaine de l'Irak sous des prétextes fallacieux qui a offert au djihadisme ambulant un terrain fertile dans un pays déjà ravagé par le despotisme de Saddam Hussein et ses interminables guerres, à quoi s'est ajoutée depuis 2011 la destruction de la société syrienne par le régime de Bachar al-Assad et ses protecteurs iraniens et russes. Et c'est sur les décombres de ces deux pays, l'Irak et la Syrie, que Daesh a fondé son international du crime. Avant cela, les Américains avaient fomenté en Afghanistan la sale guerre du djihadisme contre l'occupation soviétique en connivence avec les services pakistanais et avec l'apport en dollars et en prosélytisme wahhabite de l'Arabie Saoudite. L'écrivain afghan Atik Rahimi, exilé en France et dont chaque attentat ravive les cauchemars de la terreur noire des talibans, confirme dans le 1, je cite, « Le djihadisme prospère dans les zones de misère, dans les marges des sociétés, y compris dans les pays occidentaux. Les vautours sont toujours attirés par la désolation, l'injustice et le malheur. Ils secourent, puis ils intimident et suscitent la peur. » Et Atik Rahimi de citer Nietzsche, ainsi par les Zarathoustra, « Les dieux sont morts, oui, ils sont morts de rire en entendant l'un d'eux dire qu'il était le seul. » (6h45) sur France Culture. Julie Gacon, le retour.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous et à toutes.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, aux États-Unis, l'autre bataille, celle du Sénat.
Oui, et elle est aussi importante que l'élection présidentielle de mardi prochain, car sans majorité au Sénat, un président américain ne peut absolument rien faire. Et c'est par exemple le Sénat qui confirme les nominations à la Cour suprême, ainsi lundi dernier, de celle de la juge conservatrice Amy Coney Barrett, nommée par Donald Trump. Aujourd'hui, ce sont les Républicains qui ont la majorité au Sénat, 53 sièges contre 47 aux démocrates. Or, le 3 novembre, 35 sièges au total sont remis en jeu. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur agrégé d'histoire et spécialiste des États-Unis, chroniqueur pour Les Jours. 35 sièges de sénateurs remis en jeu la semaine prochaine. Combien concernent les démocrates ?
Alors, en fait, sur ces 35 sièges, on en a 23 qui sont détenus par des républicains et 12 par des démocrates. Donc, a priori, c'est une excellente occasion pour les démocrates de faire des gains, c'est-à-dire de reprendre plus de sièges aux républicains que ceux-ci n'en prendront aux démocrates. C'est donc une occasion en or, d'autant que, on le voit bien, on prête pour l'instant à Biden, dans la course présidentielle, une avance qui pourra éventuellement entraîner les candidats au sénatorial.
Parce que donc il faudrait que les démocrates conservent leurs 12 sièges et en remportent quoi 5, 6 de plus aux républicains pour faire basculer la majorité. Est-ce que certains États leur paraissent d'ores et déjà acquis ?
Oui, alors en fait, il faudrait théoriquement 4 sièges de gain pour les démocrates. Mais il se trouve que les démocrates sont assurés de perdre le siège de sénateur en Alabama qu'ils avaient gagné, on va dire, par accident lors d'une partielle très particulière en 2017. Donc, il leur faut gagner 5 sièges sur les républicains. Il faut reprendre 5 sièges de républicains. Il se trouve que au moins deux États qui ont été gagnés par Hillary Clinton en 2016 et qui sans doute seront regagnés par Joe Biden, le Colorado et le Maine, remettent un siège de sénateur en jeu, un siège de sénateur républicain. Et dans ces deux États, dans le Colorado et le Maine, les démocrates peuvent être raisonnablement optimistes. Donc ça fait déjà deux sièges qu'ils peuvent envisager de reprendre. Mais ça nous en laisse trois pour retrouver une majorité au Sénat qui, comme vous l'avez dit, est indispensable pour un éventuel président Biden afin de faire passer son agenda et surtout de repeupler à son tour la justice fédérale comme Donald Trump vient de le faire pendant 4 ans.
Donc on peut faire peut-être un zoom sur 3 États où les regards seront tournés le 3 novembre prochain. En quelques mots, la Caroline du Nord d'abord, Corentin Célin.
Oui, alors effectivement, la Caroline du Nord, dont on voit qu'elle est aussi un état pivot pour la présidentielle, on a un sénateur républicain sortant assez faible, qui n'a pas fait un mandat très marquant, Tillis, et les démocrates s'étaient réunis de manière rapide et extrêmement bien financés aussi derrière le candidat Cunningham. Sauf que c'est très intéressant parce qu'on voit que ces courses pour le Sénat, alors que c'est un enjeu national majeur, hein, on a bien vu par exemple avec les nominations à la Cour suprême, eh bien dans ces courses, ce sont des enjeux très locaux qui prédominent. Et par exemple, là en Caroline du Nord, le candidat Cunningham, qui était en tête des sondages pour les démocrates, a été rattrapé par une histoire de SMS sentimentaux, on va dire, envoyés à une femme qui n'était pas son épouse. Et ça a tout de suite rééquilibré la course, évidemment, avec des publicités négatives faites par son adversaire républicain Tillis. Et c'est assez symptomatique de courses sénatoriales qui se jouent sur des enjeux locaux, parfois pas à la hauteur peut-être des grands enjeux nationaux, alors que vraiment le Sénat est décisif pour le futur président.
On peut dire un mot aussi de l'Arizona, état traditionnellement républicain, mais avec une très forte immigration hispanique qui commence à faire pencher le vote en faveur des démocrates. Et là, le candidat pour les démocrates, c'est le cosmonaute Kelly. Très populaire.
Oui, alors tout à fait, effectivement, l'Arizona, on le sait, c'est un de ces états de la frontière que les démocrates espèrent cette fois-ci faire basculer, peut-être le Texas aussi, mais à un degré moindre, pour la présidentielle. Mais effectivement, on a une sénatoriale où les démocrates ont trouvé un candidat populaire que les gens connaissaient déjà avant même son entrée en politique, qui est extrêmement bien financé et qui affronte en plus une candidate républicaine faible, puisqu'il s'agit simplement d'une sénatrice qui a été désignée par le gouverneur local et qui donc n'a pas de légitimité, d'autant qu'elle a été battue lors d'une précédente sénatoriale, Martha McSally. Et donc là, les démocrates ont énormément d'espoir dans un état qui traditionnellement depuis très longtemps, depuis 30 ans, envoie des sénateurs républicains à Washington, l'Arizona. Mais là encore, Kelly a fait une gaffe. Il a été enregistré en tenant des propos discriminatoires, et ça a aussi rééquilibré une course qui paraissait gagnée pour les démocrates. Donc encore une fois, on voit bien que le Sénat en tant qu'institution a un rôle décisif parce que il confirme les nominations judiciaires du président et en premier lieu à la Cour suprême, mais les cours sénatoriales se jouent sur des enjeux locaux et sur des accidents parfois de campagne qui ne sont pas justement à la hauteur de l'enjeu national.
Des enjeux locaux alors que par ailleurs, en fait, les électeurs mettront dans l'urne un seul ticket. En tout cas, les candidats du Sénat sont sur le même ticket que le ticket présidentiel, et donc on ne sait pas bien si quel est l'équilibre entre les enjeux locaux dans cette élection pour les sénatoriales et tout ce qui se joue derrière le nom du président que les électeurs mettront dans l'urne.
Oui, alors c'est ce qu'on appelle le fameux effet de coattails, c'est-à-dire que théoriquement, un candidat présidentiel très fort et une victoire très large à la présidentielle d'un des deux partis entraîne les candidats pour les élections qui sont aussi sur le bulletin et en particulier sénatorial. On se souvient par exemple, exemple historique bien connu, qu'en 1980, la victoire très large de Ronald Reagan pour les Républicains avait entraîné une victoire massive et assez inattendue au Sénat, qui avait donné pour les premières années de la présidence Reagan une majorité républicaine au Sénat. Donc c'est évidemment ce qu'espèrent, ce à quoi rêvent les démocrates pour Biden. Mais en effet, il y a aussi une tradition dans certains États des électeurs de se dire « Bon, je ne mets pas mes œufs dans le même panier, je vote pour le président d'un parti, mais je coupe en quelque sorte mon bulletin et j'envoie un sénateur de l'autre bord afin d'assurer justement une sorte de contrôle. » Donc il faudra voir quel effet prédomine.
Est-ce que les électeurs choisiront ? Il faut imaginer ce qu'il se passerait alors si Donald Trump est élu et que le Sénat reste à majorité républicaine, ça ne changera pas grand-chose, ce sera comme aujourd'hui. Mais si Joe Biden est élu et que les démocrates n'ont pas réussi à basculer la majorité du Sénat en leur faveur, qu'est-ce que ça fera ?
Alors, c'est effectivement le scénario, j'allais dire, le catastrophe pour les démocrates. Parce que, justement, la nomination et la confirmation d'Amy Coney Barrett, la juge conservatrice, par le Sénat à la Cour suprême ces derniers jours, nous ont rappelé qu'il y a 4 ans, Barack Obama, président, mais confronté à un Sénat républicain, avait été privé d'une nomination à la Cour suprême, celle du juge Merrick Garland, par un Sénat républicain. Et demain, Biden, président, mais avec un Sénat à majorité républicaine, se retrouverait avec une institution très hostile, car aujourd'hui, ce sont des républicains extrêmement conservateurs, où il n'y a plus de conservateurs modérés, où il n'y a quasiment plus aucun espace de consensus possible. Et d'ailleurs, on peut se demander si ce n'est pas une erreur que fait Joe Biden, vétéran du Sénat, dans lequel il a été de 1973 à 2008, qui a souvent défendu l'idée que lui, il avait connu un Sénat, une chambre faite de courtoisie, de courtoisie bipartisane, où on pouvait sceller des compromis parce qu'on avait des amitiés sur les deux bords politiques.
Notamment avec des élus ségrégationnistes, d'ailleurs, Kamala Harris lui avait fait la remarque lors du débat sur les primaires, les primaires.
Oui. Et effectivement, Biden avait fait une de ses traditionnelles gaffes en mettant en avant, en début de campagne des primaires, son amitié ancienne avec des sénateurs ségrégationnistes avec lesquels il disait qu'il n'était pas d'accord, mais qu'il pouvait travailler avec eux et qu'il y avait une sorte de lien humain qui permettait de travailler. Oui, mais tout ça n'existe plus. Et justement, c'est peut-être une des failles du projet Biden, c'est de croire qu'il pourra trouver, en cas de majorité républicaine au Sénat, des hommes et des femmes de bonne volonté.
Merci.
Quand on voit aujourd'hui la campagne, on a du mal à y croire.
Merci beaucoup Corentin Sella. Donc le Sénat, l'autre bataille du 3 novembre prochain. Je rappelle que toute la semaine, France Culture se met au diapason de l'élection américaine. Trump dans l'œil des philosophes, dans les chemins de la philosophie. Looking for Kermit dans les pieds sur terre. Portrait en 5 temps du peintre américain noir et ermite, Kermit Oliver. Et puis dans LSD, une plongée de l'Amérique trumpiste. Signé Nicolas Champeau et Rafik Zénine. Merci Corentin Sella d'avoir été avec nous ce matin.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
L'élection américaine, un enjeu mondial. Sur France Culture, une programmation exceptionnelle consacrée à l'événement.
This guy will close down the whole country.
Everybody knows he's a liar.
Reportage, rendez-vous de la rédaction de France Culture. Magazine, toutes les disciplines au rendez-vous. Documentaire et podcast. Portrait des États-Unis d'aujourd'hui à la veille de l'élection présidentielle et le 3 novembre, une nuit américaine pour suivre en direct la progression et l'analyse du scrutin. L'élection américaine, un enjeu mondial sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture 6h57. Bonjour Guillaume Erner.
Mais bonjour Julie Gacon, bonjour à toutes et à tous.
Vous n'étiez pas là.
J'étais pas là, voilà, mais bah, justement,
donc vous êtes là.
Guillaume, et si le Covid, c'était la peste?
Et je veux dire, et si c'était la peste de Camus, si nous ne comprenions pas tout, car on reparle de Camus, Julie, c'est Starobinsky qui s'y colle. Le dernier livre, livre posthume du génial critique littéraire Jean Starobinsky vient de paraître. C'est le philosophe Martin Rueff qui l'a édité aux éditions du Seuil. Alors, Starobinsky, c'est un cumulard, c'est un immense critique littéraire, on lui doit notamment des ouvrages essentiel sur Montaigne, Rousseau, Les Lumières, mais Starobinsky était aussi médecin, médecin psychiatre, marié avec une médecin, et lorsque Starobinsky a commencé à enseigner, il a donné des cours d'histoire de la médecine. Or, le voilà dans son dernier livre qui parle de la peste de Camus bien sûr, mais aussi de l'épidémie en général. La peste est scandale métaphysique et scandale moral, écrit Starobinsky, personne ne comprend pourquoi la peste se diffuse. Alors on lui donne des raisons morales, hier comme aujourd'hui, relâchement, relâchement des jeunes, imprudence des vieux, irresponsable. Et Starobinsky de raconter comment Camus s'est plongé dans les écrits des médecins du passé pour rédiger sa peste à lui. Eh bien depuis le Moyen-Âge, depuis la peste, les conseils pour combattre la peste ou le Covid n'ont guère évolué. Voici un traité de la peste écrit en 1636, Julie, il stipule... Lorsque vous visitez un malade, que fassiez ouvrir les fenêtres de la chambre. Et les mêmes auteurs, poursuit Starobinsky, vous conseillent de porter un masque à lunettes et de placer au-dessus de votre nez un linge imbibé de vinaigre, mais surtout ajoute un autre médecin, pour ne pas devenir pestiféré. Il faut demeurer dans la mesure, ne pas provoquer les dieux, parce qu'écrit-il en 1551, la plupart de ceux qui meurent de cette maladie sont excessifs. Et aujourd'hui encore, nous l'entendons, cette explication, plusieurs siècles après. Mais ajoute Starobinsky, il faut tout le génie de Camus pour peindre la peste en jetant le discrédit sur les mesures administratives qui permettraient de lutter contre elle. Autrement dit, pour faire un grand roman sur une morale que Starobinsky juge fausse. Car on ne se sauve pas seul de la peste, il faut choisir ou bien guérir la société ou bien mourir seul. Et ce texte sur Camus s'achève sur ces mots « Sauver des vies suppose que l'on sache donner un sens à la vie, que l'on connaisse le prix de la vie ».